Mais par un hasard du calendrier, qui est quand même étonnant, il y a juste un demi-siècle, le 1er septembre était aussi un dimanche. Et ce dimanche-là, c'était le premier culte de l'église évangélique de Meyrin à la salle radieuse dans la cité. Est-ce qu'il y en a qui étaient à ce premier culte? Personne? Pardon? Mais oui, Lily, bien sûr. Voilà. Qui? Pierre. Ah, voilà. Alors, vous êtes parmi nous, vous êtes les témoins, c'est vrai, de la bienveillance de Dieu qu'on vient de chanter. Hein, le fait qu'on soit toujours ici et qu'on ait pu grandir, pu se transformer, pu vivre cette vie d'église. Alors, cette église, elle a été les principaux initiateurs de ça. Ça a été Charlie Cortet, Francis Dufour, et on pense à Eva qui vient de nous quitter, et André Seret. Ou Seret, je ne sais pas quelle est la prononciation juste. Vous êtes large d'esprit, d'accord. Moi, je suis du canton de Vaud, donc je ne sais pas prononcer les noms genevois. Voilà. Alors, une brève introduction historique, hein, pour dire des choses que peut-être beaucoup connaissent déjà, mais peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, ou les nouveaux non plus. Et puis aussi quelques remarques qui nous poussent sur ce qu'est notre vocation aujourd'hui et qui s'enracinent dans cette histoire. Parce que l'histoire, elle nous aide à comprendre notre identité en tant que personne, comme en tant qu'Église. Alors là, je parle de notre identité d'Église locale, de Meyrin spécifique, mais bien sûr, l'Église, c'est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus grand, puisque ça nous relie à toute une chaîne de témoins qui commence dans les Actes, comme on l'a étudié tout l'été, et puis qui se prolonge un peu dans tous les pays du monde aujourd'hui. Je veux peut-être quand même relire une partie de deux paragraphes que j'avais écrit en fait dans la brochure des 40 ans. L'Église évangélique de Meyrin a une vocation d'ouverture, une vocation qui se manifeste par l'accueil qu'elle pratique et à travers la collaboration œcuménique dans laquelle elle est engagée. C'est ainsi qu'elle veut témoigner auprès de tous de l'accueil de Dieu. Le projet qu'elle poursuit depuis 40 ans, maintenant c'est 50, est le fruit d'une vision et d'un appel. Mais il est aussi né de circonstances très pragmatiques, qu'on va rappeler tout à l'heure, l'agrandissement de l'aéroport, obligeant une communauté à quitter les murs de sa ferme, puis le partage des lieux d'un culte à Meyrin doit émerger une collaboration grandissante avec les autres églises. Il a fallu une vision claire, et une grande ouverture de cœur à nos prédécesseurs pour se lancer dans une telle aventure. C'est ensuite par la pratique que l'Église a découvert la richesse que représentent l'ouverture et la collaboration et les exigences d'un témoignage commun au cœur de la cité. C'est devenu une marque de son identité au sein de la mouvance évangélique. Je pense qu'on peut le redire aujourd'hui. Alors effectivement, j'aimerais qu'on montre juste la couverture d'une brochure qui est quasi prête, mais pas encore imprimée. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Assemblée de Colovray. Alors ça, c'est notre ancêtre, l'Assemblée de Colovray. De sa création en 1900, à sa dissolution en 1963, et vous voyez où elle était, juste au bout de piste de l'aéroport, là où il y a le petit rond rouge. Parce que s'ils n'avaient pas agrandi l'aéroport, on ne serait pas là, à Meyrin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, nous, on fait partie de... Enfin, je vais peut-être reprendre. Je sais pas si... Une assemblée de campagne accouche d'une église de ville. Alors, je voudrais faire une remarque sur les deux choses. C'était une assemblée, c'est devenu une église. On était en campagne, on est arrivé à la ville. Alors, pourquoi une assemblée? Alors, il faut remonter au début du XIXe siècle, quand les Les assemblées évangéliques sont nées du réveil à Genève. C'est des églises qui ont été fondées par des gens qui étaient pasteurs dans l'église nationale, mais qui avaient une vision d'une église beaucoup plus vivante, proche de la Bible, qui prie, voilà. Mais il s'est produit un phénomène de rejet par rapport à ce qu'était l'église protestante de l'époque, et ils sont nés des assemblées qu'on appelait dissidentes, moi, quand j'étais jeune, hein, parce qu'on était dissidents de l'église officielle. Et puis, une génération après, il y a eu une influence très forte d'un certain monsieur Darby, qui lui venait de l'église anglicane, mais qui avait quitté cette église anglicane et qui avait une vision. Pour lui, tout ce qui était l'église officielle avait complètement déraillé, et le projet de Dieu pour ces églises s'était arrêté, et il fallait que les vrais croyants se retrouvent entre eux, sans structure, et sans... voilà. Alors, ça explique un peu pourquoi, à l'époque de l'assemblée de Colovray, puis à l'époque où j'étais enfant aussi, on avait rejeté tout vocabulaire de type ecclésiastique. Alors, je me souviens, quand j'étais jeune, on se réunissait dans un local, hein, il faut que je le dise avec l'accent vaudois pour que ça le fasse. Il était dans la maison de mes parents, hein, donc on était déjà chez des privés, et puis... j'ai d'ailleurs aussi, on commençait à avoir une structure un peu reconnue, mais je me souviens très bien de la fois où on a pour la première fois élu un conseil d'anciens. Quelqu'un qui est venu de l'extérieur un dimanche, je le vois toujours tourner un rond dans le hall du local, en se demandant le ciel tombait sur la tête. C'était le monde qui était entré dans l'Église. Voilà, pour dire un petit peu comment on vivait les choses à l'époque. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est complètement différent. On parle d'Église, on a un pasteur, on a des anciens, on les appelle même presque plus tellement anciens, on l'appelle conseil. Donc voilà, on s'est réintégré quelque part dans le tissu de ce qu'est l'Église. En général, dans le monde, malgré toutes les péripéties de l'histoire. Et puis, on parle de la campagne. Alors, on était une église de campagne. Il faut dire que sociologiquement, cette église a été fondée par des gens qui étaient des gens de la terre, et en particulier des gens qui avaient émigré du canton de Vaud vers le canton de Genève. Donc là aussi, on retrouve dans nos racines ce caractère terrien, et puis en même temps, on est formé sociologiquement, on est très différent, on est formé de gens, surtout de gens de la ville maintenant. Alors, cette assemblée de Colovray a débuté donc le 11 février 1900, et puis au bout d'une soixantaine d'années, au début de 1960, on a agrandi l'aéroport. Et puis, les gens qui étaient dans cette ferme-là, elle allait être démolie. Donc, ça a été un bouleversement difficile. Alors, moi, j'y étais pas. Il y a d'autres gens qui sont mieux armés pour le raconter. Mais c'est de là qu'est née une vision nouvelle. On a une nouvelle cité qui se construit, et c'est là qu'il va falloir témoigner. C'est là que ça se passe. Michel nous a parlé de c'était le moment de semer. C'était le moment de semer dans cette nouvelle cité. Et dès le départ, on l'a voulu en collaboration avec l'église existante. Et non plus comme une église à part dans une ferme cachée dans la campagne. Donc en plein cœur de la cité. Et c'est vraiment de là que s'enracine ce qui est notre ancrage œcuménique d'aujourd'hui. Alors, au départ, ça a été des cultes communs avec la paroisse protestante, mais la paroisse protestante, ou l'église protestante, elle a aussi une vision de témoignage dans la cité, en collaboration avec d'autres, parce que un terrain a été dévolu aux églises à côté du centre commercial. Et les protestants et les catholiques se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire deux églises l'une à côté de l'autre? Puis ils se sont lancés dans ce projet qui était assez fou à l'époque, de construire ensemble un lieu de culte, qui est le Centre paroissial œcuménique de Mérin, alias CEPOM. Alors, entre cet œcuménisme-là, du CEPOM, et puis le nôtre qu'on avait avec la paroisse protestante, ben, il est né un œcuménisme à trois qui a été extrêmement enrichissant. Alors, c'est vrai que cet œcuménisme, il a eu des périodes, il a eu une période extrêmement peut-être productive et créative, et puis maintenant il est plus un peu en régime stationnaire pour des raisons qui tiennent pas tellement à nous, mais il reste quelque chose d'extrêmement important dans notre témoignage dans cette cité. Alors, j'aimerais reprendre maintenant la vision telle qu'on l'avait déjà décrite, hein, il y a un certain nombre d'années, en quatre points. Effectivement, dans notre identité, et ce qui fait notre vocation aujourd'hui, il y avait en point un l'ouverture œcuménique, hein, avec cette richesse des relations, et je crois que ceci, ça reste. C'est vrai que ça convient pas forcément à tout le monde, ni chez les protestants, ni chez les évangéliques, ni chez les catholiques. Mais ça fait partie aussi de notre diversité, de notre acceptation de la diversité, que certains vivent des choses qui les passionnent, puis que d'autres, ça les passionne moins. Mais ça fait partie de notre vie d'Église. En deuxième point, on avait mis l'ouverture vers le monde qui nous entoure, particulièrement la commune, envers la commune et à travers les services qu'elle peut offrir à la population mérinoise. Donc on était déjà dans cette idée, hein, depuis longtemps, qu'on a reformulée récemment sur « rejoindre Mérin », parce que c'est notre vocation d'être là, de pas seulement être bien entre nous dans ces quatre murs, enfin un peu plus que quatre, mais voilà. Le troisième point qu'on avait mentionné, c'est une théologie solide enracinée bibliquement. Et quand on dit une théologie, ça veut dire qu'on se contente pas seulement de lire la Bible, mais qu'on essaye de la lire en lien avec la réalité d'aujourd'hui et la réalité de l'époque où a été écrit le texte pour avoir un vrai témoignage dans l'aujourd'hui. Avec l'accueil de la diversité et la liberté dans les expressions de la foi. Et c'est quelque chose qui est dans notre identité, qui n'est pas toujours facile à vivre, qui a ses limites, mais qui est aussi une part de notre ouverture, parce que quand on veut être ouvert, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a des gens qui pensent différemment, qu'il y a des chants qui nous plaisent, puis il y en a d'autres qui nous plaisent moins, qu'il y a certains dimanches où on apprécie énormément la prédication, puis d'autres dimanches moins, mais c'est notre richesse de vivre ça et de pouvoir le vivre ensemble. Et puis un quatrième point, l'engagement pour le témoignage explicite à Jésus-Christ, aussi bien au cœur de la cité où nous vivons que dans la mission au loin, dans la solidarité avec les engagements communs des AISR qui s'appellent l'AFRE maintenant. Vous voyez que les choses bougent. Mais toujours cette vision missionnaire qui commence ici à Mérin et puis qui va beaucoup plus loin parce qu'on est solidaire avec plein de gens qui témoignent de Jésus-Christ ailleurs. Alors, je crois que cette vision, elle reste valable et que c'est vrai que c'est essentiel de se rendre compte qu'on n'est pas juste là parce qu'on est un club sympa, qu'on aime bien se retrouver, mais c'est bien de faire ça, je ne dis pas que c'est pas bien, mais on est appelé à être au-delà de ça, des porteurs de l'espérance de Jésus-Christ autour de nous, aussi bien individuellement qu'en tant qu'Église. Voilà.
Alors, le premier texte proposé pour la méditation d'aujourd'hui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, c'est versets 13 à 23. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire que je te ferai encore voir ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. C'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humbles conditions comme aux personnages importants. Ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens.
Et un deuxième texte dans Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
C'est bien possible que vous avez voyagé cet été d'une manière qui n'était pas possible il y a 50 ans de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous prenez la voiture, vous pouvez brancher un appareil et il y a une voix qui vous dit par où il faut passer. Ça, c'est le GPS. Ça peut être extrêmement utile. On nous a passé un appareil qu'on a pris avec nous dans notre voyage en Angleterre. On savait dans les grandes lignes où on voulait aller, mais à un moment donné, on voulait rendre visite à une jeune femme qui était au pair chez nous il y a maintenant bientôt 20 ans quand on était en France. Elle habite la grande ville de Sheffield et on n'avait que l'adresse, on n'avait aucune idée où ça pourrait être. On programme l'adresse, on branche l'appareil, bien sûr, et puis il y a cette voix qui nous dit, oui, troisième sortie, prenez à droite, encore, c'est en kilomètres, mais voilà, on comprend, encore trois kilomètres, et puis tenez sur la gauche, et puis à un moment donné, vous êtes arrivé. Et effectivement, cette maison où on n'a jamais été de nos vies, c'était la bonne adresse. On était arrivé. Bien sûr, il y a des petits malins qui savent mieux que le GPS. On pense connaître, on prend un petit raccourci et puis on se plante. C'était notre cas en rentrant de notre voyage, arrivé plus ou moins un peu après Dijon, avec déjà 800 kilomètres de fait dans la journée. Mais on connaît maintenant, et ça nous a coûté en tout cas 50 kilomètres de plus de détour. On pense savoir mieux. Cet été, si vous êtes resté ici et vous avez assisté au culte d'été proposé. Le thème était les voyages de Paul. Et Paul, on va voir, lui aussi, il avait ses directives. Mais en tout premier lieu, il y avait le point de départ, sa vision. Sylvain nous a rappelé que l'Église est venue ici avec une vision, et Paul a eu une vision sur le chemin de Damas. En fait, jusque-là, il s'appelait Saul, il devient Paul, donc changement de nom, changement de voie, il était sur la mauvaise voie, il devait se réorienter. Changement de camp. Selon notre texte, il est passé des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Verset 18. Du persécuteur de l'Église, il est devenu, selon le verset 16, serviteur et témoin. Changement de direction radicale. C'est tellement marquant dans sa vie que, à trois reprises dans les Actes, il raconte cet événement. Paul va en parler toujours à nouveau. J'ai pas désobéi à la vision céleste, mais d'abord à Jérusalem, en Judée, d'abord à Damas, ensuite Jérusalem, Judée et partout. J'ai annoncé ce qui m'est arrivé, son témoignage. J'ai pas désobéi à la vision céleste. Il y en a dans les Actes qui ont désobéi. On peut penser à Simon le magicien, personnage un peu douteux qu'on rencontre au chapitre 8. Lui a désobéi. Pourquoi? Mais vous vous souvenez peut-être qu'il a cherché à acheter le don de Dieu parce que il voulait pas être serviteur mais exercer un pouvoir en voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Le très excellent gouverneur Félix à Césarée, lui, il a désobéi à la vision céleste. On a l'histoire dans le 24e chapitre des Actes. Il faisait venir régulièrement l'apôtre Paul pour raconter ce qui lui est arrivé, mais dans le seul but, il espérait que Paul lui donnait de l'argent pour qu'il puisse sortir de prison plus rapidement. L'histoire de la rencontre avec Jésus ne l'intéressait pas. Mais, heureusement, beaucoup ont obéi. Corneille, Lydie, le geôlier romain, Philippe, toute une série de personnes ont choisi tous d'obéir. Et ainsi, selon le verset 18, ils se sont tournés des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, et, toujours dans le verset 18, ils ont reçu le pardon de leurs péchés et un héritage à ceux qui sont sanctifiés par la foi en Dieu. En fait, si vous avez suivi dans vos Bibles, c'est pas par la foi en Dieu, c'est Jésus qui parle et dit par la foi en moi. Jésus est Dieu, et par la foi en lui, on vit le pardon, on reçoit le pardon de ses péchés. À un carrefour de leur vie, ils ont eu la révélation de qui est Jésus, et ils ont pris une toute nouvelle direction, avec de toutes nouvelles possibilités. La rencontre décisive du verset 15. Qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus. Paul va s'y référer toujours à nouveau. C'est l'événement historique, sa conversion. Comme on le dit, maintenant, il a pris la bonne voie. Mais ça, c'est le début. Après, nous savons tous que les choses peuvent devenir plutôt corsées. Et sur le chemin par la suite, comment Paul a gardé le cap? Comment il a fait? Vous vous souvenez, c'est acte 16, il s'est trouvé, après des directives claires du GPS de l'époque, il s'est trouvé à Macédoine parce qu'il a eu cette vision d'un homme debout qui disait, mais venez, un Macédonien, venez, viens à notre secours. Il obéit aux directives et voilà qu'il se trouve battu et jeté dans le cachot au milieu de la prison à Philippe. De quoi douter qu'il a bien entendu les directives ou si le GPS était fiable? Et voilà qu'avec Silas, on le trouve à minuit en train de chanter. Ça rappelle quelqu'un d'autre, l'apôtre Pierre, en acte 12. Lui, aussi en prison, c'est la veille de son exécution programmée. Lui, il dormait. Comment ils ont pu agir ainsi? J'ai trouvé très intéressant l'explication pour Pierre. Vous vous souvenez, c'est une des dernières rencontres que Pierre a eues avec Jésus. Jean leur suivait un peu derrière. Et Jésus dit à Pierre, « Mais quand tu étais jeune, tu attachais ta ceinture comme tu l'as voulu, mais quand tu seras vieux, on t'attachera et on t'amènera où tu ne veux pas. » Quand tu seras vieux. Et voilà, le voilà en prison, encore un relativement jeune homme. Moi, je crois que c'est pour ça qu'il avait une parole du Seigneur qu'il a pris pour lui-même, en quoi il a cru, et savait que le Seigneur allait le tirer de l'affaire. C'est pour ça que Paul, après X jours d'ouragan, de tempête, personne n'a mangé depuis, selon le texte, il me semble que c'était 11 jours, va sortir la casse-croûte. Et il va manger tranquillement. Il a dit, mais le Seigneur m'a montré que, parce que il avait une parole qui le tirait en avant, le Seigneur lui est apparu, a dit, de même que tu as témoigné, rendu témoignage de moi à Jérusalem, de même tu vas témoigner à Rome. Et si le Seigneur l'a dit à Rome, il ira, tempête, ouragan, tout ce que vous voulez, il ira à Rome. Malgré tous les obstacles, donc, et ils en manquent pas de se présenter, Paul peut rester centré, concentré. La raison, une parole concrète lui a ouvert la voie pour l'avenir. C'est le projet Rome. On s'est demandé en préparant ce culte si l'un ou l'autre aimerait juste dire un mot de témoignage comme nous sommes exhortés dans notre texte, rendre témoignage devant les petits et les grands, d'un événement fort qui vous tient sur la bonne voie. Ça peut être votre chemin de Damas, baptême, chemin retrouvé. Ou qu'est-ce qui me fait avancer aujourd'hui? Quelle est ma vision que le Seigneur a posée devant moi et qui me tient avec le cap bien arrêté? Mon projet Rome. Peut-être aujourd'hui aussi, vous êtes un peu arrêté en bord de route par tel ou tel obstacle. Comment je le gère? Comment je garde le cap au milieu de la tempête? Peut-être ce que vous avez découvert. Oui, dans la difficulté, voilà comment le Seigneur m'aide ou m'a aidé. Est-ce que quelqu'un aimerait juste prendre micro et dire, voilà, ça, c'est ça qui me tient. C'est ça qui me tire en avant, envers et malgré tout. Ou c'est là où je suis aujourd'hui et j'aimerais qu'on prie avec moi. Je vais commencer. Ça vous laisse le temps de réfléchir. J'étais tout jeune chrétien et on avait quelqu'un qui est venu enseigner sur la vie de Joseph, que j'aime particulièrement. Et puis, à un moment donné, il a dit, mais c'était dans une équipe d'OM, il a dit, mais sachez que vous êtes immortel jusqu'à ce que vous avez accompli ce à quoi le Seigneur vous a destiné. Moi j'ai cru à ça, que malgré des événements, et il y en a eu des événements difficiles concernant le ministère à certains moments, est-ce qu'il y a une voie ouverte, un avenir, possibilité de continuer? Je dis, mais non, fort de cette parole, c'est pas l'ennemi qui établit l'agenda, c'est le Seigneur et c'est lui qui décidera de l'issue. Une parole qui réconforte, qui donne courage, qui permet de continuer. J'aimerais peut-être juste conclure suite à la vision et ce que nous avons entendu de Paul, chemin de Damas, projet de Rome. Quel est le message que j'aimerais que vous reteniez ce matin? Alors, je ne sais pas si Pierre, tu te souviens, ou Lily, pour ce culte, premier culte, il y a 50 ans, à la salle radieuse, il y a eu un événement juste quelques jours avant. Événement qu'on a aussi célébré cette semaine. C'était, vous souvenez? Je ne sais pas si ça avait été évoqué, mais c'était la semaine qui précédait ce culte où il y a eu le fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream », « J'ai fait un rêve ». Rêve de liberté, de libération. Ça n'arrivait pas non plus il y a 50 ans. Hein? Vous avez peut-être vu à la télé cette semaine le rappel, il y a 50 ans de ça, de Martin Luther King. Et puis, rien ne pouvait l'arrêter. Et le message est « Tiens ferme, tenez ferme ». Il a dit à un moment donné dans un de ses discours, autre « J'ai fait un rêve », quand tout le monde essayait de l'empêcher, de lui obliger de faire demi-tour, il va dire « Mais j'étais sur la montagne et j'ai vu de l'autre côté ». À la terre promise. Personne ne va nous forcer à faire demi-tour. Tenez ferme, hold on. C'était le cri de persévérer jusqu'au bout. Pour l'apôtre Paul, dans notre texte, lui, il se trouve en prison déjà depuis quelques années quand il rend témoignage. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi il y a tant de besoins pour le progrès de l'Évangile? Il est là, arrêté. Mais il a tenu ferme parce qu'il était accroché à la vision céleste à laquelle il a obéi. Soutenu par une équipe, c'est vrai, dans l'assurance, j'irai à Rome. Le GPS, vous le savez probablement, que ça indique le temps qui reste à faire jusqu'à l'arrivée à la destination. 300 mètres, 300 jours, 3 mois, 30 années. Nous n'avons pas cette information concernant notre voyage. Mais soyons fermement convaincus, on ira jusqu'au bout. Rien ne peut nous forcer à faire marche arrière, demi-tour. Dans nos familles, qu'est-ce qui est prioritaire? De nous aider les uns aux autres et les autres à tenir ferme pour arriver jusqu'au bon port, comme on a célébré dans les enterrements de cette semaine passée. Elles sont arrivées à destination. Et dans notre Église, en tant que communauté, Claude nous a signalé le projet Rome pour nous. C'est de nous aider les uns les autres à poursuivre, continuer, rester attachés à la vision céleste jusqu'à ce qu'un jour, on entend les uns avec les autres et avec bien d'autres qu'on souhaite se joindre à nous, vous êtes arrivés. Je pose un temps de silence, de réflexion et je terminerai en priant. Seigneur, merci. Merci de tout cœur que tu es venu intervenir dans notre parcours de vie. Tu l'as fait abruptement, tu l'as fait en douceur, progressivement, de tant de manières, mais tu es venu et tu nous as parlé de l'amour du Père. Du pardon possible de tous nos péchés, d'entrer dans cet héritage qui nous est réservé maintenant dans les cieux. Merci de ce que, en poursuivant le chemin, tu poses devant nous un panneau qui indique une destination, un objectif. Tu nous tires en avant avec tes promesses. Et en cours de route, tu es là pour nous rassurer, pour nous rappeler, pour nous relever. Nous te bénissons pour ta fidélité et de ce que tu as dit, que tu seras là avec nous jusqu'à ce que le jour que nous entendrons les mots de toi, vous êtes arrivés. Seigneur, pour ceux qui sont en arrêt, terrassés par des obstacles, dans la tristesse, nous te prions de renouveler une parole d'espérance dans leur cœur, les relever, qu'ensemble nous puissions continuer à progresser le long du chemin que tu nous as tracé à ta suite, Seigneur. Amen.